Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi.
Édition spéciale.
Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 29 octobre, la France, de nouveau sidérée par une attaque terroriste, une attaque au couteau dans une église à Nice. C'était vers 9h ce matin, il y a 3 morts. Le terroriste présumé qui a crié « Allahu Akbar » a été blessé et interpellé. Il est à l'hôpital. Emmanuel Macron sera sur place en début d'après-midi avec Gérald Darmanin et le ministre de la Justice. C'est donc une édition spéciale que nous consacrons à ce nouvel attentat qui est venu bousculer les annonces de reconfinement. Jean Castex a dû quitter rapidement l'Assemblée nationale après un bref discours et une minute de silence. Nous entendrons l'analyse de Thibaut de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, et celle aussi du porte-parole de la Conférence des évêques de France. L'Église catholique évoque un acte innommable. Le reconfinement mode d'emploi, on en saura plus ce soir avec le Premier ministre, mais d'ores et déjà, le masque sera obligatoire à l'école primaire pour les enfants à partir de 6 ans, et le télétravail privilégié 5 jours sur 5. D'après le ministre de la Santé, 1 million de Français sont actuellement contaminés par le virus. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Bon, dans ce contexte, on aurait bien mérité un peu de lumière.
C'est vrai que ça reste bien gris hein, sur les deux tiers nord du pays, avec encore un peu d'humidité sur le nord-est. Quelques éclaircies en allant vers l'ouest. Le vent souffle encore sur les côtes de la Manche et puis ça souffle également sur la côte provençale et la Corse. Mais le temps, là, est bien ensoleillé du sud de l'Aquitaine à la région PACA et la Corse. Les températures, elles sont douces, souvent au-dessus des normales, de 14 à Lille à 22 à Montpellier, 16 à Paris et Lyon, 18 à Rennes et 20 à Agen.
Et on ne change pas nos bonnes habitudes malgré cette actualité chargée. Vous aurez la parole sur RTL à 13h avec vous, Pascal Praud. Bonjour.
Bonjour Christelle. Et notre émission sera évidemment consacrée entièrement à l'attentat qui a frappé la ville de Nice ce matin.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
La France frappée donc au cœur, encore une fois, 13 jours après l'assassinat de Samuel Paty. Un nouvel attentat à Nice ce matin, une attaque au couteau, là encore, qui a fait 3 morts. 2 femmes et un homme à l'intérieur de l'église Notre-Dame, située en plein centre-ville, près de l'une des artères les plus fréquentées. L'auteur a été interpellé, Alice Moreno. Que s'est-il passé exactement en début de matinée?
Eh bien, vers 9h, un homme a surgi dans la basilique armé d'un couteau. Il a d'abord égorgé une femme venue faire sa prière. La septuagénaire a été retrouvée quasi décapitée. La deuxième victime est un homme. Il s'agirait d'un sacristain, un employé du diocèse, lui aussi tué au couteau dans l'église. Et puis, une troisième personne a été grièvement blessée, lardée de coups de couteau. Une femme qui est parvenue à s'enfuir et se réfugier dans un restaurant à proximité, mais elle a succombé à ses blessures quelques instants plus tard. Des témoins du drame ont appelé le 17. Arrivé sur place vers 9h10, une équipe de police municipale a tiré à plusieurs reprises sur l'assaillant. L'homme âgé d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Certaines sources indiquent qu'il a crié à la Ouagbar. D'autres se refusent à le confirmer pour l'instant. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Oui, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit un attentat.
Non, le parquet national antiterroriste est bien saisi.
Alors, pourtant, les lieux de culte font l'objet d'une surveillance renforcée en ce moment, en particulier à l'approche de la Toussaint.
Absolument. Le week-end dernier, le ministère de l'Intérieur a adressé un télégramme à tous les préfets. Une alerte sur la menace terroriste toujours élevée. Un appel à renforcer la vigilance aux abords des lieux de culte, églises, synagogues et mosquées. Dans le contexte du procès des attentats de Charlie Hebdo, de la republication des caricatures de Mahomet, des récentes attaques terroristes, Gérald Darmanin s'est fendu d'un nouveau télégramme ce matin, appelant à renforcer cette vigilance immédiatement. Les préfets sont tenus de prendre contact avec l'ensemble des responsables de lieux de culte pour identifier les sites les plus sensibles et prendre les mesures de protection nécessaires.
Merci Alice Moreno. À Nice, où le terrible attentat de juillet 2016 qui avait fait 86 morts est toujours un traumatisme profond, on a revu ce matin des scènes de panique. David travaille à côté de l'église Notre-Dame dans une boulangerie. Il raconte à Vincent Serrano.
J'étais en train de travailler. Il y a un monsieur qui avait à peu près 60-70 ans. Il est venu vers moi en disant, monsieur, il y a une femme qui était décapitée dans la cathédrale. Il faut appeler à la police. Je regardais, je me suis dit, mais c'est une blague. Après, là, j'ai vu comment il a commencé à trembler. Je suis allé avec lui vers la cathédrale, mais je n'ai pas osé rentrer. Il y avait déjà les policiers. Il y avait une dizaine de personnes qui ne savaient pas ce qui se passait. Et moi non plus, je les ai fait rentrer dans la brioche. On a entendu les coups de feu. Dès qu'on a entendu, je fermais le rideau et on a attendu la policière parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Je me suis dit, s'il est avec une arme, j'ai pas les mots pour m'exprimer. c'est triste. C'est la deuxième fois qu'on vit ça à Nice.
On entend le traumatisme de David au micro de Vincent Serrano. Hugo Hamelin, vous êtes dans ce quartier, justement, à Nice, avenue Jean Médecin, l'artère la plus commerçante de la ville où tout est encore bouclé à l'heure où on se parle.
Effectivement, quartier complètement bouclé en plein centre-ville de Nice. Il y a des barrages de police municipale un peu partout. C'est la sidération qui domine. Ici, beaucoup de Niçois sont au téléphone. Ils découvrent au fil des minutes l'horreur de ce nouvel attentat.
C'est affreux, quoi. Ça nous refait penser à ce qui s'est passé, je crois, en 2016, pour le 14 juillet. C'est abominable.
Et c'est, je sais pas, c'est troublant. On est déjà dans une époque qui est assez bizarre. Et si ça se rajoute en plus, enfin, on n'est pas sorti de l'auberge.
Des enquêteurs de la police judiciaire de Marseille sont arrivés sur place ici à Nice. Le périmètre de sécurité s'étend sur 500 mètres autour de l'édifice religieux. Les enquêteurs sont donc encore à l'intérieur. Nice frappé une nouvelle fois, on l'a entendu, après le 14 juillet 2016.
Emmanuel Macron sera sur place en début d'après-midi. Une cellule de crise a été montée ce matin en urgence au ministère de l'Intérieur et ce nouvel attentat qui nous sidère est venu percuter la mise en place du confinement. Jean Castex était en train de faire un discours à l'Assemblée nationale lorsqu'il a été prévenu. Marie Mollet, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, 9h56 dans l'hémicycle. Jean Castex vient d'achever sa déclaration, chahutée par les députés de l'opposition, quand le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, interrompt les débats.
Nous venons d'apprendre, à l'instant pendant que s'exprimait le Premier ministre, qu'un attentat d'une gravité extrême s'est produit à Nice. Je vous demande, dans ces circonstances tragiques, d'observer une minute de silence.
Du silence, puis Jean Castex descend de la tribune et quitte précipitamment l'hémicycle.
Je vais donc être tenu, compte tenu des circonstances exceptionnelles, de me rendre place Beauvau à la cellule interministérielle de crise et je vous demande, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir le comprendre.
L'opposition de droite, notamment, avait prévu de pilonner le gouvernement sur le manque d'anticipation de la seconde vague de l'épidémie. Mais tout à coup, le débat paraît comme décalé. À la place de la crise sanitaire, Marine Le Pen attaque l'inaction, dit-elle, du gouvernement face au terrorisme.
Je ne sais pas combien d'attentats il sera nécessaire pour que le gouvernement prenne conscience que nous avons besoin de nous doter d'une législation de guerre pour répondre à la guerre qui nous est menée.
Les députés de tous bords, sidérés par ce nouvel attentat, c'est surréaliste, glisse l'un d'entre eux. On est, dit-il, à un point de rupture.
Et Christian Estrosi, le maire de Nice, sonné, a eu des mots très forts ce matin.
Je dois dire que Nice, comme la France, et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Trop, c'est trop. Et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire. J'ai donné des instructions, après avoir échangé avec l'évêque, que toutes les églises de la ville soient mises sous surveillance et fermées pour garantir la sécurité aux Niçoises et aux Niçois, pour lesquels, je le dis très clairement, je ne transigerai sur rien.
Anéantir l'islamo-fascisme, les mots de Christian Estrosi, le maire de Nice, dans la matinée. Invité d'RTL Midi, Thibaut de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour.
Bonjour.
Un nouvel attentat à Nice, une attaque au couteau de la part d'un homme, alors que l'émotion est encore immense après la mort de Samuel Paty. C'est un terrible scénario que vous redoutiez ?
C'est un terrible scénario qui n'a malheureusement absolument rien d'une surprise, qui se double d'une autre attaque qui a eu lieu un petit peu avant midi à Avignon, avec un individu qui a été abattu par les forces de l'ordre alors qu'il s'apprêtait manifestement à poignarder des passants.
On n'est pas sûr pour l'instant que ce soit un acte terroriste, mais effectivement vous avez raison de le mentionner.
Non, certes, on n'est pas sûr, mais enfin, vous savez, ce genre d'actes sont appelés dans les services de renseignement des actes d'inspiration islamiste. Alors, est-ce que ensuite ce sera formellement judiciarisé comme tel ou pas? En tout cas, quand un individu se jette sur des policiers en criant « Allah Akbar », on a quand même un certain nombre d'indices qui permettent, en tout cas dans l'analyse, parce que c'est ça que vous me demandez, de mettre en perspective des événements qui s'accélèrent à nouveau. Dans un contexte qui a été rappelé par le ministre de l'Intérieur la semaine dernière, mais qu'il faut souligner. Il y a en réalité deux éléments à prendre en compte. Il y a un élément contextuel propre à la période actuelle avec le procès Charlie Hebdo,
oui.
La réédition des caricatures par la republication par Charlie, ensuite la terrible affaire de l'assassinat de Samuel Paty pour avoir parlé de la liberté d'expression et montré des caricatures dans sa classe. Ça, c'est un contexte qui est propre aux événements depuis la rentrée. Et ça, on a trop tendance à l'oublier parce qu'évidemment, on est focalisé sur l'actualité. Plus généralement, le terrorisme islamiste en France est en train de se réorganiser. Nous le disons depuis plusieurs mois. Nous avons un certain nombre d'individus qui ont été au combat en Irak et en Syrie et qui ont purgé des peines de prison en France, qui sont sortis de prison. D'autres qui sont sur le point de sortir. D'autres, il faut le dire aussi, qui sont sur notre territoire sans qu'ils aient pu être arrêtés. Il s'agit d'ailleurs pas seulement de Français, mais il y a des binationaux, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Et donc, parce que c'est ça qui est important, il y a à nouveau une capacité en France d'organisation d'actes qui sont plus complexes que les attaques que nous sommes en train de vivre.
Mais pour l'instant, on a plutôt l'impression d'avoir encore affaire à des individus, actes individualisés, si j'ose dire.
Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison pour ce qui concerne ce qui s'est encore passé ce matin, apparemment.
Bien sûr.
C'est là que la plus-value de l'enquête va apparaître. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et puisqu'on fait le point sur ce qui est en train de se passer, sur la menace, il est absolument indispensable de rappeler l'existence d'une menace grave et structurée qui est en train de réapparaître et qui explique que en début de semaine, le ministre de l'Intérieur ait fait intervenir directement le directeur de la DGSI auprès des préfets pour insister sur ce double risque.
Donc la menace est plus forte que jamais, vous êtes en train de nous dire.
Elle a déjà été très forte. On se souvient des années 15-16 avec des commandos projetés qui avaient des capacités que la France a durement ressenties dans sa chair. Mais elle est de nouveau à un point qui est comparable. Alors évidemment, la situation n'est pas la même, mais en termes d'intensité de violence et de risque de violence, nous sommes à nouveau dans une intensité qui est assez comparable à celle de la fin de 2015.
C'est le deuxième attentat dans une église. On se souvient de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Ça aussi, c'est tout un symbole.
C'est tout un symbole sur la cible. Il y a un autre symbole, c'est que c'est la deuxième décapitation en 15 jours. Et là encore, sur la symbolique de l'horreur de l'acte et de la répulsion que ça inspire, c'est très difficile de faire une classification de l'horreur. Mais c'est vrai que ce sont des gestes qui sont très connotés, qui sont très, très inspirés directement de l'État islamique et de toutes les vidéos qui ont inondé les réseaux sociaux depuis 5 ans. Et de voir que petit à petit des actes de charia, hein, puisque c'est il faut appeler les choses par leur nom, se déroulent d'abord envers un professeur qui a pu exprimer la liberté d'expression dans sa classe, ensuite parce que des mécréants sont en train de prier dans une église, parce que ça n'est rien d'autre que ça, c'est glaçant. Et cette accélération des événements est très inquiétante et inquiète d'ailleurs les forces de sécurité intérieure au plus haut point.
Merci beaucoup pour votre décryptage et pour votre analyse, Thibaut de Brombrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci encore. On fait une pause et dans un instant, la réaction de l'Église catholique à cet attentat, donc à l'église Notre-Dame, au cœur de Nice.
RTL Midi, édition spéciale.
RTL Midi,
édition spéciale.
Christelle Robière.
Édition spéciale consacrée à cet attentat dans une église. C'est du jamais vu depuis le drame de Saint-Étienne-du-Rouvray et la mort du père Hamel. On le rappelle, 3 personnes tuées ce matin, 2 femmes et un homme à l'église Notre-Dame de Nice. L'église catholique dénonce un acte innommable. Les chrétiens ne doivent pas devenir un symbole à abattre. On va y venir dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, retrouvons Raphaël Vantard à l'église Saint-Sulpice de Paris où les fidèles sont évidemment très émus ce matin.
Ils sont nombreux pour cette pause déjeuner à venir se recueillir ici à Saint-Sulpice dans ce qui est devenu depuis l'incendie de Notre-Dame, la cathédrale des catholiques de Paris. Eddy a appris sur son téléphone l'attentat à la basilique de Nice. Il tente d'apaiser son émotion dans la prière.
Prier pour ces personnes-là parce que par la prière, on est en communion avec ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà, c'est une nouvelle attaque envers... le catholicisme, et c'est terrible.
Émotion partagée évidemment par Nathalie, mais cette croyante s'interroge aussi face à l'absence totale de forces de l'ordre autour de cet édifice religieux de premier plan.
Je suis sous le choc, je viens d'écouter les infos, je n'avais pas entendu ce matin. Et ça se passe en plus dans les églises, c'est un signe vraiment encore plus inquiétant. Là, on est devant une grande église, Saint-Sulpice, il n'y a personne. On aurait dû mettre en place des policiers plutôt qu'en voir 4 ou 5 courir après des personnes qui n'ont pas de masque.
Les cloches résonneront chaque heure ici à Saint-Sulpice cet après-midi. Elles sonneront tout à l'heure à 15h à l'unisson avec toutes les églises de France.
Un reportage Raphaël Vantard et à l'instant, on apprend que la sécurité va être portée dans tout le pays au niveau urgence attentat. C'est ce qu'annonce Jean Castex. Autre invité d'RTL Midi, Vincent Némon, le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Bonjour.
Bonjour.
Le glas va donc sonner tout à l'heure dans toutes les églises.
Oui, le glas va sonner dans toutes les églises où ce sera possible. Et puis, les évêques proposent aux catholiques de réciter une prière qu'ils ont écrite ce matin, spécifiquement en hommage aux victimes, à leurs familles, à leurs proches.
Mmh. Est-ce que vous avez l'impression de replonger un peu dans le cauchemar de Saint-Étienne-du-Rouvray avec l'assassinat terroriste du père Hamel?
Oui, je pense que, évidemment, ces horribles meurtres de ce matin nous rappellent cet attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais je crois qu'il nous rappelle aussi l'attentat contre Samuel Paty. Je veux dire par là que... Il est à craindre que ces terroristes qui ne comprennent rien à notre civilisation visent l'ensemble de notre pays en visant plus particulièrement des personnes dans une église, donc des chrétiens, des catholiques, comme ils l'ont fait ce matin.
Donc c'est pas seulement les catholiques qui sont visés, si je comprends bien ce que vous dites.
Écoutez,
c'est
en tout cas ce qu'on peut penser. Absolument, je crois que c'est vraiment, en tout cas moi c'est comme ça chez nous que nous voyons cet événement. Alors bien sûr la communauté catholique ressent une sorte de sidération, une profonde tristesse, et on n'a pas de mots pour éprouver notre sentiment du moment. On veut absolument dire aux personnes qui sont proches de ces personnes victimes à quel point on pense et on prie pour elles. Mais maintenant, si on ouvre les yeux, on voit bien que ce terrorisme essaye de toucher ce qu'il croit être des symboles de notre société, et que le christianisme en est un. D'ailleurs, après les attentats de Charlie, nous avions vu aussi des vagues islamistes s'en prendre aux églises en Afrique. Mmh. Et voilà, donc on voit bien aussi que le christianisme, c'est un débat, d'ailleurs on voit bien dans notre communauté, c'est aussi la représentation de notre civilisation.
Est-ce que vous aviez entendu Vincent Némon, pardon, est-ce que vous aviez entendu parler de menaces, hein, les lieux de culte devaient être placés sous surveillance par le ministère de l'Intérieur?
Alors, on entend parler de menaces, mais comme d'autres institutions. De fait, nous avions entendu parler de menaces plus spécifiques envers les chrétiens. Je pense que le débat ne peut pas porter sur la surveillance des 45 000 églises en France. Il faut être réaliste. Il n'est pas possible de déployer des forces de l'ordre devant toutes les églises de France.
Bien sûr.
Et pourtant, il doit rester possible de les garder ouvertes. Je ne parle pas de la situation sanitaire, mais je parle de la situation spirituelle de notre pays. Il est indispensable que les églises restent ouvertes. Il est indispensable que les chrétiens et les autres puissent s'y rendre, parce que fermer les églises, ce serait fléchir le genou devant cette menace qui cherche à semer l'angoisse et la peur chez l'ensemble de nos compatriotres.
Est-ce que vous demandez
un enjeu aujourd'hui, rester debout.
Est-ce que vous demandez quand même à vos fidèles de prendre des précautions particulières?
Je pense qu'il est de toute façon, chacun est-il besoin de le demander? Je pense que la situation dans laquelle on est suffisamment préoccupante pour que chacun soit vigilant, bien sûr. Maintenant, soyons réalistes. Nous savons bien, et tout le monde le dit, que cette forme de terrorisme low cost, elle est imprévisible, encore plus que l'était le terrorisme qu'on a connu dans les années passées.
Dans les années 2015,
bien sûr,
plus organisé, absolument.
Voilà. Exactement. Donc, faisons attention, mais ne rentrons pas dans une psychose.
Ne fermons pas les églises. J'entends bien ce que vous dites aujourd'hui à midi. Merci beaucoup, Vincent Némon, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Sachez aussi que le Conseil français du culte musulman condamne avec force cet attentat. En signe de deuil, il appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Molid qui dure jusqu'à ce soir et qui commémore la naissance du prophète de l'islam. En Arabie Saoudite, un agent de sécurité du consulat français de la ville de Jeddah a été attaqué au couteau par un Saoudien. Les jours de cet homme ne sont pas en danger. L'assaillant a été arrêté par les forces de sécurité saoudiennes. La France appelle les Français résidents en Arabie Saoudite à faire preuve d'une vigilance maximale. On fait une pause dans un instant. On en vient à l'autre actualité du jour qui était déjà assez pesante, le reconfinement.
RTL Midi, édition spéciale.
RTL Midi,
édition spéciale.
Christelle Robière.
Plus de 32 700 000 téléspectateurs ont suivi hier soir Emmanuel Macron nous dire qu'il fallait rester un maximum chez nous. Nous devons tenir, a dit le président, mais c'est un plan de reconfinement plus souple qu'au printemps pour ne pas asphyxier totalement l'économie. Le Premier ministre doit donner plus de détails en fin d'après-midi. On peut quand même déjà faire le point. Christophe Ponzio, d'abord, qu'est-ce qui va fermer ?
Alors déjà, les restaurants, hein, plus aucun service, plus de café non plus, ni de bar. Hein, dernière commande ce soir. Fermé aussi dès demain, les librairies, les coiffeurs ou les bijouteries, tous les commerces dit non essentiel. Seule la vente à distance reste autorisée. La situation sera réévaluée dans 15 jours. Enfin, concernant le secteur de la culture, c'est la fin des séances de cinéma. Fini aussi les ouvertures des théâtres, des salles de spectacle, des musées et des bibliothèques.
Et qu'est-ce qui reste ouvert ?
Alors, pour les commerces, exception pour les fleuristes ouverts jusqu'à dimanche, jour de la Toussaint. Après, ce sera fini. Mais sinon, reste ouvert les magasins alimentaires, hein, supermarchés, les marchés en extérieur, les boulangeries, mais aussi les magasins de bricolage, outillage, animalerie, les opticiens, garagistes, stations-service. Vous pourrez aussi toujours vous rendre dans votre bureau de poste ou encore dans les bureaux de tabac et les marchands de journaux, sans parler bien sûr des pharmacies, mais aussi des guichets, des services publics comme les agences Pôle emploi. Enfin, pour ce qui est des secteurs qui peuvent continuer à travailler, vous avez là les chantiers qui peuvent continuer à se poursuivre, les usines aussi, contrairement au début du premier confinement, où il y avait eu une période, vous savez, de flottement. Les emplois à domicile, garde d'enfants, ménage sont aussi maintenus et autorisés. Autant de secteurs dans des lieux qui ne reçoivent pas du public et où des protocoles sanitaires ont été mises en place.
Et Emmanuel Macron a promis un plan spécial pour aider les travailleurs indépendants, les commerçants, les TPE et les PME. Les élèves pourront aller à l'école, même si le protocole d'accueil devra être affiné. Et Jean Castex a annoncé ce matin que le port du masque serait étendu aux enfants dès l'âge de 6 ans. Concrètement, Marie Guerrier, comment ça va se passer à l'école ?
Ça veut dire que les élèves vont porter un masque en primaire, du CP au CM2, alors que jusqu'à présent, ça ne commençait qu'au collège. Guylaine David est la porte-parole du SNIEPP, le syndicat des enseignants du primaire.
Ça va être quelque chose de contraignant. D'ailleurs, les enseignants sont très partagés sur la question du port du masque parce que porter un masque à 6-7 ans, on le voit déjà au collège, les collègues du collège nous le disent, les enfants ont du mal à porter le masque en continu. Puis il y a la question de changer de masque. On ne peut pas fonctionner toute la journée avec le même masque. On va dire que c'est une mesure supplémentaire dans les mesures barrières qu'on doit adopter dans les écoles, mais ça ne sera pas suffisant. Là, il nous faut vraiment mettre en place la distanciation physique entre les élèves. Et pour ça, il n'y a une seule solution, il faut diminuer le nombre d'élèves par classe en présentiel.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a vaguement évoqué ce matin des évolutions possibles d'emploi du temps. Ce serait dans le cas justement où il faudrait faire des plus petits groupes, notamment en lycée avec une partie des cours suivis en classe et une partie à la maison. Mais cela reste encore à préciser dans le protocole renforcé attendu ce soir. Il a aussi évoqué des mesures pour éviter au maximum le brassage des élèves entre les classes, à la cantine, un lieu hautement à risque puisqu'on y enlève les masques, et puis des mesures d'hygiène et d'aération renforcées.
Merci Marie. Quant au télétravail, il doit être le plus massif possible, a dit le Premier ministre. Toutes les fonctions qui peuvent l'être doivent l'être 5 jours sur 5. Du côté des hôpitaux, 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients du Covid, deux fois plus qu'il y a 15 jours. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime même qu'un million de Français sont actuellement porteurs du coronavirus. Sachez que la brigade RTL vous propose de répondre demain à toutes vos questions liées au Covid et aux annonces d'Emmanuel Macron. Vous pouvez d'ores et déjà nous écrire sur la page Facebook RTL ou nous envoyer un courriel à l'adresse témoin avec un S, donc témoin au pluriel, @rtl.fr. Pascal Pro, vous prenez la parole avec les auditeurs dans quelques minutes parce qu'on va faire un petit rappel des titres.
Qui vont pouvoir évidemment réagir sur l'attentat de Nice. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL Midi,
édition spéciale.
Il est 13h, pardonnez-moi.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Édition spéciale.
Édition spéciale, effectivement. Et nous sommes avec Nicolas, qui est prêtre, qui intervient régulièrement, qui habite dans la Somme. Bonjour, mon père.
Bonjour, Pascal.
Vous vouliez témoigner?
Oui, je voulais d'abord dire toute ma prière et puis toute ma compassion pour les familles des victimes.
Et vous allez pouvoir évidemment tout à l'heure donner votre avis, mais tout d'abord le rappel des titres avec Christelle.
Le glas sonnera à 15h dans toutes les églises de France en hommage aux trois victimes de l'attentat de ce matin à Nice. Deux femmes et un homme attaqués au couteau à l'église Notre-Dame, au cœur de la ville. L'agresseur a été blessé et interpellé. Il est à l'hôpital. Le parquet antiterroriste a été saisi. Revenons sur les circonstances de cet attentat avec vous, Alice Moreno.
Eh bien, un homme a surgi dans la basilique armé d'un couteau. C'était vers 9h ce matin. Il s'en est d'abord pris à une septuagénaire, une femme qu'il a égorgée. Elle a été retrouvée quasi décapitée. Puis, il a attaqué un homme. Il s'agirait d'un sacristain, un employé du diocèse. Lui aussi a été tué au couteau. Une troisième personne a été grièvement blessée, lardée de coups de couteau. Une femme qui est parvenue, dans un premier temps, à s'enfuir, se réfugier dans un restaurant à proximité. Mais elle a succombé à ses blessures quelques instants plus tard. Des témoins du drame ont rapidement appelé le 17. Une équipe de police municipale est arrivée sur les lieux vers 9h10. Elle a tiré à plusieurs reprises sur l'assaillant. L'homme âgé d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Une enquête est donc ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Emmanuel Macron sera sur place d'ici une heure avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, William Galibert.
Oui, effectivement, le président de la République qui a décollé de Villacoublay il y a quelques minutes. Avec lui, les ministres, mais pas seulement. Il est aussi accompagné du chef du parquet antiterroriste et du président de la conférence des évêques de France. Et le gouvernement veut montrer qu'il n'est pas uniquement dans l'émotion, mais bien aussi déjà dans l'action. Jean Castex, le Premier ministre, vient de s'exprimer à l'Assemblée nationale.
Cette attaque aussi lâche que barbare endeuille le pays tout entier. Le procureur national antiterroriste s'est saisi. La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate. J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour demain matin.
Les crises s'additionnent pour l'exécutif et pour le pays. Crise sanitaire et donc crise terroriste. On attendait ce soir à 18h30 la conférence de presse de Jean Castex. À l'origine, il devait simplement y préciser les règles du confinement. Après l'attaque de Nice, ce rendez-vous va prendre une importance encore plus grande.
Mais le rendez-vous est maintenu, William.
Pour l'instant, il est toujours maintenu.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de réactions, dont celle du président du Conseil du culte musulman, Mohamed Moussaoui.
D'abord, ma condamnation ferme de cet acte terroriste et lâche, mais également exprimer bien sûr notre solidarité, exprimer nos condoléances aux familles des victimes et à toute la communauté catholique qui s'apprêtait à fêter la Toussaint. Et en signe de deuil et de solidarité et de compassion avec nos compatriotes catholiques, j'appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête de Maulid al-Nabawi, la naissance du prophète de l'islam, qui était prévue ce vendredi, samedi, dimanche. Et j'appelle les musulmans de France à se lever de toutes leurs forces face à cette idéologie mortifère qui détourne nos enfants et nos jeunes vers des actes en totale contradiction avec le sens de notre foi.
Voilà la réaction très ferme du président du Conseil du culte musulman, Mohamed Moussaoui, au micro de Gauthier Delon-Bugard. Avant de vous laisser la parole avec Pascal, juste un petit mot de météo quand même, parce que ça nous intéresse malgré l'actualité. Peggy Broche, il y a au moins une bonne nouvelle. Il fait très doux.
Ah oui, c'est vrai qu'on est souvent au-dessus des normales. 22 à Marseille cet après-midi, 20 à Biarritz, 19 à Toulouse, 18 à Nantes, 17 à Grenoble, 16 à Paris, 14 à Nancy. Alors côté ciel, c'est simple, c'est du beau temps dans le sud, entre le sud de l'Aquitaine et la région PACA ainsi que la Corse. Ça souffle quand même bien, jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, c'est un temps couvert, surtout sur l'Est, avec encore un petit peu d'humidité entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Et en allant vers l'Ouest, on retrouve quelques éclaircies parmi les nombreux nuages. Et ça souffle également sur les côtes de la Manche.
Merci Peggy.
On est ensemble jusqu'à 14h30. Je remercie Christelle de cette actualité si lourde. Trois morts, deux femmes et un homme. Le gardien de la basilique Notre-Dame attaque au couteau vers 9h à l'intérieur de la basilique. Assaillant interpellé par la police à 9h10. Il est actuellement au bloc opératoire. Plan vigie, pirate, urgence, attentat activé. Emmanuel Macron est attendu à Nice. Une pause et nous revenons.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Édition spéciale.